Deuxième raison, j'avais été à Nuit Debout il y a quelques temps. Je suis tombé sur un jeune homme qui se réclamait de l'anarchie, qui m'a remis un tract pro-palestinien. Ce tract partait très bien. Les 10 premières lignes étaient très bien. Ça tournait très rapidement en antisionisme, ça arrivait en antisémitisme, et c'était du Alain Soral à la fin. Donc une énorme confusion. D'autant plus que entre temps, il y a quelques années, moi j'ai préfacé un livre qui s'appelle « Voyage au bout de l'abject » sur Louis-Ferdinand Céline. Je croyais que quand même dans nos milieux, c'était quand même difficile de défendre Céline, et je me suis retrouvé sur la toile avec des mots d'oiseaux, des insultes, et je suis tombé un peu, comme on dit, de l'escalier. Et puis là, juste avant de qu'on prenne contact, il y a eu un article qui m'a intéressé dans l'Humanité d'ailleurs, et qui dit ceci. Le mythe du complot juif, notamment, revient régulièrement lors de pandémies, parce qu'il offre une explication rationnelle à l'angoisse, observe l'historienne Nona Meyer. Dans les périodes de crise, on cherche un bouc émissaire. Dans l'histoire, on constate qu'il s'incarne régulièrement à travers la figure des Juifs. Voilà, c'est toute cette confusion qui fait que je t'ai téléphoné. J'ai lu ton livre et j'ai dit on va prendre rendez-vous pour parler de tout ça. Alors, c'est publié, Pierre Sommermeyer, anarchiste et juif, anarchiste antisémite, et antisionisme aux éditions libertaires. Hein ? Ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est tellement vaste comme sujet, ça recouvre le politique, ça recouvre l'historique, le philosophique, le religieux aussi, il faut bien le dire, même si on est sur Radio Libertaire, il aurait fallu au moins 300 pages pour traiter de tout ça. La couverture est très explicative, entre guillemets, il y a un point d'interrogation, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un cube, une étoile juive, le A de l'anarchie et un point d'interrogation. Alors moi, je me suis demandé si ce point de l'interrogation... Je trouvais que c'était très clair comme façon de conceptualiser ce que tu as voulu dire. Ça veut dire quoi, ce point d'interrogation ? C'est on s'interroge sur les passerelles qui existent entre la culture juive et la culture anarchiste, ou ce point d'interrogation concerne tous les hiatus, tous les malentendus et toutes les choses innommables qu'il y a eu de la part de certains organismés, certaines plumes juives, anarchistes par rapport à la culture juive. Alors, c'est quoi ce point d'interrogation, selon toi ?
Mais je crois que c'est tout cela en même temps, et en même temps, c'est que la question reste ouverte. Au fond, tous les gens qui se sont penchés, qui ont écrit sur la question juive, entre guillemets, ont élaboré des idées, des théories, mais sans résoudre cette question. Et les anarchistes, quand ils se sont confrontés à la question juive, ont biaisé sans arrêt, parce que c'est à la fois une religion, il n'y a pas de problème, c'est à la fois une ethnie, et ça c'est très discutable, et c'est beaucoup été discuté, c'est un mélange, c'est une culture, c'est un héritage, c'est quelque chose qui est honni par tout le monde, au fond. Et quand j'ai fait ce travail... Je suis parti quasiment de la fin. Je me suis posé la question de savoir pourquoi la question de la Shoah n'était pas traitée par les anarchistes.
Petite parenthèse, tu dis un mot terrible dans ton livre en bas de page. On est en 2017, tu me corriges si je me trompe. Tu es dans une réunion avec des camarades anarchistes et quelqu'un te dit « Le mot Shoah ne m'intéresse pas parce que c'est un terme religieux. » Ce qui est une confusion totale.
Mais... Absolument, c'est exactement ça. J'avoue avoir été assez choqué et interloqué, ne pas avoir su quoi répondre à cette question. Donc j'ai commencé ce travail en me disant, bon, on va aller aux sources, au départ des anarchistes. Et j'ai commencé à feuilleter la presse anarchiste. en me servant effectivement de tous les originaux qui sont présents sur le site Archive Autonomie, où les textes fondateurs de l'anarchisme existent et sont publiés.
Parce que le problème n'est pas nouveau, parce que en préparant cette émission et en te programmant, j'ai reçu du Québec quelqu'un qui me dit le sujet est très intéressant vu que le problème s'est posé au Canada au début du siècle. Plus, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit je travaille en yiddish sur une traduction de texte de fin 19e concernant ce problème.
Mais oui, c'est la première rencontre entre les anarchistes et les juifs, c'est l'affaire Dreyfus.
Voilà.
Et là se pose la question de savoir, est-ce qu'on défend un militaire? Est-ce qu'on défend un juif? Est-ce qu'on défend un juif accusé par des militaires parce qu'il est juif? Est-ce qu'on défend autre chose? Et c'était, il y a eu des discussions extrêmement vives au sein des mouvements anar. Et si quelqu'un comme Sébastien Faure emportait le morceau en disant non, on défend la liberté et la vérité, c'était lié à sa présence à lui, Sébastien Faure.
Tu sais que le problème, c'est plus tard se reposera pareil avec Jean Genet qu'on a mis dans les bagnes pour enfants dans son enfance. Et il dit à un moment donné, je vais quand même pas aller défendre l'État français contre l'envahisseur allemand. Il va même jusqu'à provoquer en disant vive l'Allemagne, que l'Allemagne gagne. C'est le même problème qu'en fin de compte qu'on a posé par rapport au militaire qui a été Dreyfus, qui aurait pu très bien tirer sur le peuple. Mais c'est intéressant parce que sur la même page de ton livre, là, tu rappelles, moi, je n'avais pas pris conscience de ça, tu donnes les dates de l'affaire Dreyfus, hein, tu t'en souviens de mémoire, ça finit en 1906 environ, hein, c'est 94-1906, et tu dis cette phrase, « Simultanément, une autre question se posait aux anarchistes, celle du sionisme. » Né à Bâle, au mois d'août 1897, en pleine affaire Dreyfus, il s'agit d'abord d'un plan de réunification nationale juive. C'est-à-dire que le projet d'Israël date quasiment de cette époque-là.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Et il est conjoint avec la montée du nationalisme partout. C'est donc une nation en plus à créer. Il est l'œuvre de juifs qui ne sont pas du tout religieux. Les juifs religieux vont dire non, c'est pas à vous de faire ça, c'est à Dieu de le faire, et se poseront à ça. Et de l'autre côté, les juifs qui ont rompu avec les communautés et qui se sont organisés au sein de syndicats, de partis, choses comme ça, et entre autres chez les anarchistes, diront aller en Palestine. Pour créer quelque chose, c'est contre-révolutionnaire. La révolution se fait ici et pas là-bas. Mais les mêmes gens iront voir les penseurs anarchistes du moment et poseront la question de savoir est-ce qu'on peut aller là-bas.
On peut aller là-bas, mais ce qu'il y a derrière dans la mémoire anarchiste, anti-judaïque, anti-judaïque pour commencer, est déjà assez grave, parce que je vais te lire deux petits passages que tu as repris dans ton livre, hein, qui sont symptomatiques. C'est Émile Pouget qui a repris un peu le ton du père Duchesne de la Révolution, hein. Il dit « Quand un bon bougre fout à la gueule d'un type, comme s'il foutait une baffe, ce mot, tu es un youtre. Il se moque de la religion comme de l'an 40. Le youtre, en un mot, c'est l'exploiteur par excellence. Il est parfait dans sa crapulerie pour faire suer le populo, pour suer son sang, à lui le pompon. » Alors, on peut penser que là, il y a un côté un peu démago, etc. Moi, je trouve, d'ailleurs. Mais lorsqu'on prend un penseur anarchiste comme Proudhon, qui veut s'exprimer beaucoup plus philosophiquement, on a quand même ceci, juif. Faire un article contre cette race qui envenime tout, en se fourrant partout, sans jamais se fondre avec aucun peuple. Demander son expulsion de France, à l'exception des individus mariés avec des Françaises. Abolir les synagogues, ne les admettre à aucun emploi. Poursuivre enfin l'abolition de ce culte. Ce n'est pas pour rien que les chrétiens les ont appelés déicides. Le juif est l'ennemi du genre humain. Il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. Par le fer ou par le feu, ou par l'expulsion, il faut que le juif disparaisse. Tolérer les vieillards qui n'engendrent plus, travaillent à faire. Ce que les peuples du Moyen-Âge haïssaient d'instinct, je le hais avec réflexion et irrévocablement. La haine du juif, comme de l'anglais, doit être notre premier article de foi politique. On est en 1847.
Oui.
Oui, c'est quand même solide, hein.
C'est étonnant. C'est quelque chose qui n'a pas été publié, mais qu'on a trouvé après coup. C'est révoltant, mais ça montre bien toute l'ambiguïté dans laquelle on était. Et plus tardivement, quand les anarchistes juifs vont voir quelqu'un comme Reclus, et qu'ils lui posent la question, savoir est-ce qu'on peut aller là-bas, Reclus a une drôle de réponse. Il dit « Les juifs ne pourraient y vivre qu'en faisant du commerce et en exploitant la population locale. » Alors on se dit « Tiens, il a compris quelque chose. » Et en même temps, il n'a pas compris que les Juifs qui partiraient en Palestine, à ce moment-là, créer des kibbutz, iraient cultiver la terre. C'est quelque chose qui lui a échappé. Et plus tard, donc, il déconseille ça. Et plus tard, il dira, dans l'Homme et la Terre, « Quant aux Juifs, ne sont-ils pas chez eux sur le sol que Jéhovah lui-même a donné à leurs ancêtres ?» Là, il y a un moment de silence.
De la part de Reclus.
Voilà. Il justifie le retour.
Ouais. Pour un, lui, il doit être théoriquement... Reclus est athée. Donc, il se réfère aux Écritures.
Oui.
Aux Écritures.
Si on connaît Reclus, on comprend... ce à quoi il fait référence, c'est-à-dire à une culture religieuse, protestante, fondamentaliste qu'il avait quand il était môme. Hein. Cela dit, nonobstant, ça pose un problème. Et là sont posées toute l'ambiguïté de la relation entre les anarchistes et ce qui va devenir Israël, c'est-à-dire considérer le kibbutz
comme
une préfiguration d'une société libérée.
D'accord, du socialisme.
Ou du socialisme, oui, si
d'accord.
On veut.
Mais d'où tu peux expliquer d'où vient, par exemple, le texte d'un Émile Pouget ou le texte d'un Proudhon, dans l'inconscient collectif, on peut appeler ça comme ça, d'où ça vient?
L'inconscient collectif qui continue à durer. J'avais écrit, il y a une dizaine d'années, un article dans Le Monde Libertaire, sur la question des quartiers, où revenait régulièrement l'idée, à ce moment-là, dans la presse comme ça, que les garçons dans les quartiers étaient antisémites, dans les quartiers populaires, ils étaient antisémites. Et je défendais une autre thèse, qui était celle que ces garçons étaient complètement intégrés dans la société française, et qu'ils avaient fait leur l'anti-judaïsme, qui était commun.
Donc il reproduisait la morale.
Il continuait.
D'accord.
Je veux dire, je suis un ouvrier et j'ai toujours été sur tous les chantiers où j'ai été. À un moment donné ou à un autre, fais pas comme un juif, t'es pas un juif comme les autres, et ainsi de suite. Hein. Je veux dire, c'est cet anti-judaïsme de base qu'on retrouve particulièrement en Alsace où je vis, il y a des rues des juifs partout, il y a des restes de synagogues, j'ai un vieil ami dont la mère lui disait « mais arrête de parler comme un juif ». Donc ça fait partie, c'est le socle sur lequel l'antisémitisme s'est construit.
Si on prend le texte d'Émile Pouget comme celui de Proudhon, le juif passerait pour un exploiteur. C'est-à-dire, puisque on a employé le mot socialiste, on place déjà le débat. Il y a un glissement entre, j'ai envie de dire, alors là, il faut bien faire attention, hein, lutte de race et lutte de classe.
Selon ces gens-là, oui.
Voilà,
mais nous, on sait que ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Mais dans l'inconscient collectif bien français, bien bourgeois, c'est ça.
Oui, tout en marquant que l'anti-judaïsme a toujours été, au fond, l'outil pour les puissants de régler les problèmes sociaux. Il était quand même plus facile de brûler des juifs ou de les sortir de la ville que de s'occuper des problèmes urbains, des problèmes de santé, des choses comme ça. Hein. Et la première croisade qui a eu lieu, les gens sont partis sans être payés, mais ils avaient le droit de liquider des juifs en passant pour avoir leur solde, n'est-ce pas ? Ce qui évitait, évidemment. Donc, sans arrêt, on est devant cette situation-là, et au fond, la question qu'on doit se poser, c'est à qui profite l'antijudaïsme ?
On va écouter, avant d'écouter un toute petit peu de musique, ça corrobore ce que je te dis, ça corrobore notre conversation, Le Rouleau. Il y a six lignes qui résument, je crois, bien la situation quand il dit « comme on le voit ». Le projet des sionistes socialistes est intéressant. Il n'est pas surprenant qu'il compte dès maintenant des adhérents zélés et nombreux, malgré l'opposition des bourgeois juifs de Londres. On est dans la lutte de classe, là. Et il ajoute, les sionistes pensent que la réussite de leur tentative serait intéressante au point de vue général. Ce serait un enseignement donné aux ouvriers et aux révolutionnaires internationaux. C'est-à-dire qu'on sépare le monde juif déjà en deux parties, les bourgeois et les ouvriers. Non ?
Absolument, tout à fait. Mais en même temps, on se trouve là devant la contradiction qui fait qu'aujourd'hui, les anarchistes ne peuvent plus soutenir que les kibbutz étaient une préfiguration. Parce que les kibbutz, après la guerre de 66, sont passés complètement dans la construction du capitalisme en Israël. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce qui se passe de l'autre côté, ça soit comme on voudrait. Donc, je crois que sur la question israélo-palestinienne, la plupart de la mouvance libertaire fait très souvent fausse route en ne considérant pas les choses comme... conflictuel.
Comme toute l'extrême gauche, et ça va donner des choses qui vont être aberrantes à un moment donné.
Mais tout à fait. Hein? Moi, je pense que aujourd'hui, Israël est un État stable qui existe, qu'on ne peut plus nier. Les Palestiniens veulent, certains Palestiniens veulent un État aussi comme ça. On n'a pas, en tant qu'anarchiste, on n'a pas à choisir entre deux États. Par contre, on a à soutenir les gens qui, de part et d'autre, luttent pour passer par-dessus les limites étatiques. Et il y en a très peu, mais il y en a qui sont, ils sont très minoritaires, et ils sont toujours contre les structures étatiques israéliennes ou proto-étatiques palestiniennes.
On va écouter un peu de musique, mais à deux reprises dans ton livre, tu dis que, je ne sais plus qui tu es, toi tu connais ton livre mieux que moi, on s'aperçoit qu'il y a des Arabes en Palestine.
Oui, ça c'est gênant, ça.
Ça c'est gênant, je ne sais plus, c'est au départ, très tôt, on dit, tiens, mais il y a des Arabes. C'est très bizarre.
Oui, c'est, en fait, le problème vient à partir du moment où les kibbutz s'installent, ils perdent complètement leur capacité internationaliste. Et au lieu d'essayer de se lier avec les Arabes qui sont là, les Palestiniens qui sont là, et les faire rentrer dans les kibbutz, il y a un mur qui se forme, mais de part et d'autre. Et les propriétaires palestiniens n'avaient pas intérêt à ce genre de choses. Et en même temps, dans l'émigration juive en Palestine, il y a toute une tendance ultra-raciste autour de Jabotinsky et qui, elle, va donner le là et dont les disciples sont aujourd'hui au pouvoir.
On va y revenir, Pierre. Kurt Weill, ça t'inspire ?
Oui.
Hein ? On va écouter un petit morceau de Kurt Weill. Merci, Monique.
Thank you. kommen wir zurück. Lieber heute als morgen, lieber heute als morgen. Wir sind aufgebrochen vor 4 Wochen, nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In 7 Jahren haben wir's geschafft, dann kehren wir zurück.
Aber lieber schon in 6.
Denn auf uns warten unsere Eltern und 2 Brüder in Louisiana. Ihnen schicken wir das Geld, das wir verdienen. Und von dem Gelde soll gebaut werden ein kleines Haus. Ein kleines Haus am Mississippi in Louisiana.
Nicht wahr, Anna?
Ja, Anna. Meine Schwester ist schön, ich bin praktisch. Sie ist etwas verrückt, ich bin bei Verstand. Wir sind eigentlich nicht 2 Personen, sondern nur eine einzige. Wir heißen beide Anna. Wir haben eine Vergangenheit und eine...
Merci Monique, au 01 43 71 89 40. Et bien toujours avec Pierre Sommermeyer, anarchiste et juif, c'est aux éditions Liberté. Petite parenthèse, et très rapidement, et après on va revenir sur le sujet. Là. Les gens qui vont arriver en Palestine, ils viennent d'Europe centrale.
Oui.
Je veux dire qu'ils sont déjà au contact du progrès.
Oui.
Ils vont tomber sur une population qui, elle, n'est pas au contact du progrès.
Oui.
Voilà, et ça c'est un problème fondamental, non ?
Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Ces gens qui arrivent, qui sont des intellectuels, pour la plupart, vont se retrouver dans une situation où il faut qu'ils produisent leurs propres besoins, leur propre nourriture. Donc, ils vont, ils vont revenir en arrière par rapport, ils vont faire le travail, un type de travail qui leur était interdit jusqu'à présent en Europe. D'accord ? Et d'une certaine façon, ils vont se remettre à niveau avec les gens qui les Arabes qui sont là, quoi, grosso modo. Donc, je ne sais pas si quelqu'un s'est posé cette question. Il y a eu un livre qui est paru il y a très peu de temps sur les kibbutz, et les anarchistes et les kibbutz de Horrocks, et lui, il évacue cette question-là. Donc, il y a ce côté, au fond, de gens qui, d'un côté, avec un bagage culturel, certes, important, la culture des Lumières, se retrouvent obligés de cultiver leur terre, et ils ont à côté d'eux des gens qui cultivent aussi leur terre. Pas forcément de la même façon, mais... Et il n'y a pas de jonction qui est faite. Et en même temps, à ce moment-là, il y a plein de conflits dans les années entre les deux guerres mondiales. Il y a plein de conflits qui opposent les Arabes et les Juifs.
Oui. Alors, toi qui as travaillé sur les textes, je suppose que tu as travaillé sur les textes juifs et aussi sur les textes des libertaires. Où se situent les passerelles ? Parce que c'est le gros problème. Quand on regarde la presse, on s'aperçoit que d'aucuns pensent que c'est vraiment un socialisme qui va s'implanter, et d'autres qui pensent qu'effectivement, non, ce ne sera pas ça. Où se situe la jonction entre les passerelles ?
Mais elle se situe avec la transmission de textes d'un côté à l'autre. Des kibbutz vont publier mais je ne pense pas qu'il l'ait fait en arabe, mais des textes de Bakounine, de Kropotkine...
Il l'aurait fait en quelle langue, alors ?
En allemand.
En allemand, d'accord. Hein ?
Et quelqu'un comme Gustav Landauer, qui avait joué un rôle extrêmement important dans la mouvance libertaire germanique, qui avait élaboré toute une théorie sur les communes, sur les communautés, ça, va influencer beaucoup les kibbutz, les kibbutznik allemands. Mais c'est pas lui. Lui, il sera mort. Il n'a jamais eu de position sioniste. C'est Buber qui va dire c'est la pensée de Landauer. Au fond, il y a eu, à un moment donné, une rencontre qui ne s'est pas faite. Sur place, entre les kibbutzniks socialistes, révolutionnaires, libertaires pour certains et d'autres moins, et la mouvance nationaliste arabe, palestinienne, qui commençait à naître. Il faut se rendre compte que c'est le moment où l'Empire ottoman s'est désagrégé et la petite bourgeoisie palestinienne peut commencer à avoir un avenir.
Et Pierre, avant le mouvement sioniste, le phénomène de partir pour composer une société agraire, le plus souvent agraire, ça appartient au XIXe siècle. Les Saint-Simoniens se sont retrouvés en Égypte ou en Amérique du Sud.
Tout à fait.
Hein?
Tout à fait.
Donc c'était encore une chose, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'était une forme d'utopie à laquelle on pouvait encore croire.
Absolument, mais il y a eu dans le courant libertaire tous les milieux libres qui se sont créés, de gens qui se sont dit « ça suffit comme ça, on se bat, on n'a jamais rien, on va créer tout de suite une communauté ». Au fond, je dirais, le mythe communautaire est un mythe moteur qui traverse toute la société et surtout dans les milieux révolutionnaires.
Là, il y a un petit passage. Excuse-moi, je ne sais pas. C'est Le Cache, tu connais Le Cache,
oui.
Voilà, qui dit « Je suis anti-sioniste parce que le sionisme réduit le droit des Juifs à n'être libres que sur un point limité du globe, sans d'ailleurs y parvenir, et qu'il ne saurait résoudre la question de l'antisémitisme. » Ça, c'est une phrase qui m'a paru clé. Non, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que Le Cache, à ce moment-là, il représente la Ligue des droits de l'homme.
Oui.
Dont les positions aujourd'hui sont beaucoup plus ambiguës par rapport à Israël et aux Palestiniens. Hein? Donc, c'est ça. Mais effectivement, il y a eu tout un débat sur la question avant la Deuxième Guerre mondiale, et ce débat, après la Deuxième Guerre mondiale, disparaît.
Les premières migrations apparaissent vers les années 20 ?
Non, 1900.
1900,
oui.
Voilà. Et ça se continue vers 22. Ça se continue.
Oui.
Ça continue.
Mm-hmm.
Et est-ce que ces gens qui migrent, qui vont en Palestine, sentent que l'Europe est en train de mal virer, puisqu'il faut quand même rappeler que 1924, c'est la marche sur Rome, hein, et 33, c'est quand même...
Alors là, c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de chiffres pour ceux qui étaient des libertaires. Par contre, on a des chiffres pour ceux qui étaient communistes, qui ont préféré partir en Espagne, se battre, plutôt que rejoindre les luttes nationalistes, indépendantistes, palestiniennes. Ils se sont trouvés, au fond, partagés entre leur internationalisme et leur judaïsme. Et pour éviter ça, ils sont partis en Espagne. Hein? Bon, j'ai pas trouvé de chiffres pour les libertaires. Ça. Mais donc, pour eux, la question s'est posée. Donc je suppose que la question s'est posée aussi pour les autres.
Puisque tu parles de l'Espagne et ce que ça a donné comme catastrophe aussi par rapport au mouvement anarchiste. Hein. Voilà, il y a un livre que je conseille, c'est très très drôle parce que les gens ne le connaissent pas, c'est un livre de Michel Sahuc, Un regard noir, la mouvance anarchiste française au seuil de la Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation nazie de 36 à 45, et c'est aux éditions du Monde Libertaire, c'est en 2008. Publié là, et c'est fondamental pour savoir qu'est-ce qui est resté du mouvement anarchiste après la guerre. Voilà, je sais pas si voilà, très peu de gens l'ont lu. Tu veux dire que tu veux intervenir? Oui, excuse-moi.
Mais je voudrais juste, à propos de la guerre d'Espagne, revenir à un point que j'ai trouvé ça très intéressant. Comment l'antijudaïsme perdure à travers...
Tu dis pas antisémitisme?
Non, l'antisémitisme, voilà. C'est l'attitude qui consiste à dire on liquide tous les juifs et le monde est libre. D'accord ? L'antijudaïsme, c'est quelque chose qui traîne depuis 2000 ans, où on est obligé de gérer ça. Et au moment de la guerre d'Espagne, il y a un camarade, un compagnon juif marocain qui écrit à la CDT et qui dit « Ce serait bien que vous abolissiez le décret d'expulsion des juifs datant de 1492. » On se dit « Qu'est-ce que ça coûtait ?» Au fond, ça considérait personne. Un trait de papier, c'était terminé. Et la réponse du compagnon à qui il s'adressait, il convient néanmoins de préciser que nous ne pouvons pas battre le fer contre le vieil édit sur l'expulsion des Juifs d'Espagne, car ce serait ouvrir la porte au judaïsme international. On se dit, c'est quand même très curieux. Alors qu'en même temps, au même moment, il y avait des Juifs palestiniens qui venaient se battre. Mais on voit à quel point c'est quelque chose, l'antijudaïsme, c'est quelque chose qui a profondément marqué les gens, qu'ils soient de quelque mouvance que ce soit. Après, il y a cette guerre qui arrive.
Ça, on va y revenir, ça. Mais on va même sauter, et puis on y reviendra, on va même sauter. 45, c'est la création de l'État d'Israël.
Non.
Non, combien ? 48.
48.
48, pardon. 48, c'est la création. Dans la presse libertaire, on note la chose ou pas ?
Ah oui, on note la chose.
Et on note la chose comment ? Comme si c'était un État qu'on condamne ?
On ne sait pas très bien sur quel pied danser. Hein. Et en même temps, il y a des compagnons qui partent, qui ne supportent plus leur situation en France, et qui partent et qui rejoignent les kibbutz. Donc, c'est un État qui se naît, mais il y a des cellules révolutionnaires en zone.
Toujours en croyant, parce que moi j'ai rencontré des gens qui sont partis, hein, toujours en croyant au socialisme.
Oui, bien sûr.
Voilà. Au départ, l'État d'Israël serait un État socialiste.
Ah, complètement.
D'accord.
C'est un État socialiste, c'est un État athée.
C'est un État athée.
Oui, c'est pour eux, la justification religieuse n'existe pas. Donc, les juifs religieux sont présents. Mais dans l'organisation politique, l'organisation sociale, constitue, il n'y a pas ça. Et à aucun moment, Israël n'est considéré comme un État juif. C'est maintenant.
D'accord, c'est bien plus tard. C'est et qu'est-ce qu'ils font des Arabes lorsqu'ils arrivent en 48 ?
Ah, ils partent. Il y a un conflit là.
C'est immédiat.
C'est immédiat. C'est d'un côté et de l'autre, on se rentre dedans et les plus faibles sont obligés de partir. Et les plus faibles, en l'occurrence, ce sont les Arabes.
Donc, il va y avoir cette guerre. Bah, qui dit la guerre, qui dit le monde juif, dit la déportation. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que par rapport à cette déportation, il va y avoir un grand silence qui va se faire au retour, qui va appartenir quasiment à toute la culture française, mais aussi en particulier au monde anarchiste. C'est-à-dire que, tu dis toi-même dans ton livre, dans les journaux, là, il y a très très peu de compte-rendu de ce que ça a été. Soit on ne veut pas le savoir, soit, je vais te lire un tout petit passage que tu as écrit toi, c'est tellement dérisoire qu'on a l'impression que rien ne s'est passé.
Oui, c'est préoccupant, je dirais. J'ai connu beaucoup de gens qui avaient échappé à la Shoah, qui avaient survécu à ce passage de la guerre, qui avaient été des juifs, qui auraient... moi-même, j'ai été sauvé par des Français, donc où c'était des Français non-violents au Chambon-sur-Lignon. C'était quelque chose de très, très curieux de voir tous ces gens qui étaient tout à fait conscients, que ce soit dans les milieux anarchistes, autant que dans les milieux marxistes libertaires, marxiens ou communistes de conseil, toute cette question n'a jamais été abordée. Et personne n'est en mesure de me dire pourquoi.
Tu sais qu'après après Hiroshima, on a noté aux États-Unis, on n'avait jamais vu autant de cas d'amnésie. Les gens ont été brusquement frappés d'amnésie, mais au niveau médical. Voilà.
Oui, alors après, dire la question, enfin, moi, les gens dont je parle, c'était tous plus ou moins des théoriciens, c'était des grosses têtes dans les mouvements. Qui n'était pas tenu par le Parti communiste, hein, le stalinisme. Nonobstant, voilà. C'est quand j'ai demandé à droite, à gauche, pourquoi, on ne sait pas.
Tu as écrit « La Shoah y est totalement absente. Si l'on fait exception de cette ligne que lui consacre Rudolf de Longue dans sa contribution, cette ligne pour évoquer un événement considérable, une extrême abomination ayant conduit plus de 6 millions de personnes vers l'horreur. Cette ligne, quand le sujet a suscité des myriades de livres. Cette ligne, c'est décidément court pour traiter de la Shoah, quand son existence même remise en cause et pour l'humanité entière auquel elle s'accorde le projet libertaire, la possibilité de vivre debout. Je pense aujourd'hui que l'on peut chercher dans la répétition de cette apparente indifférence les racines du négationnisme que certains petits groupes pratiquèrent dans les années qui suivirent mai 68. Je crois que c'est une phrase importante de ton livre, ça.
Oui. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il est clair que si cette question avait été abordée, étudiée, réfléchie, discutée, la question de la Shoah, la question de la disparition de juifs qui étaient des juifs, mais de beaucoup de camarades juifs.
Tu dis judés aussi, toi, tu dis pas
oui,
génocide.
Bon, c'est un problème de vocabulaire, de répétition, okay. De choses comme ça. Si ces questions avaient été abordées, les positions négationnistes affichées par des petits groupes après 68 n'auraient pu avoir lieu, parce qu'il y avait déjà un corpus de faits. Ce corpus n'ayant pas été fait, eux ont pu rentrer là-dedans. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est le texte que tu as écrit sur les 7 lignes. Ça fait référence à un livre qui est paru avec presque le même titre que le mien, qui s'appelait « Anarchistes et Juifs, histoire d'une rencontre », qui est le fruit d'un colloque tenu à Venise en 2000 par, comment dire, des grands noms de l'anarchisme.
D'accord.
C'est pas des petits militants qui se réunissent, c'est des grands noms de l'anarchisme qui se réunissent, qui ont une importance auxquelles on fait référence. Et cette question-là, elle est évacuée. Et quand j'en ai parlé, personne ne m'a répondu là-dessus.
On va creuser le sujet, on va écouter un petit peu de Kurt Weill, reprendre notre respiration et puis boire un verre, et on creuse le sujet avec cet infâme Paul Razinier, qui est quand même une des bases. Une des bases.
Der Zeitung steht, ist anders schon im Baltimore. Und um sie schießen sich allerhand Leute tot. Da wird sie Frieden. Das macht einen Namen und hilft einem Menschen fest. Wenn sie da nicht so viel ist, sonst macht man sich nicht mehr aus ihr. Das macht man bald einen großen Morgen am See. Yeah.
nimmt, muss die andere geben. Nimmt
ah, merci Serge d'avoir fait silence. Merci Monique Courteveille, voilà. Donc, on est à l'après-guerre, là, il y a ce grand silence, on ne dit pas grand-chose. Mais il y en a certains qui vont prendre la parole, qui vont prendre la parole sur deux sujets. Un, c'est le procès Céline, en 49. Et combien on trouve, alors je le disais, de gens se réclamant de l'anarchie, en même temps trouvant des circonstances atténuantes à Céline, alors qu'il a été, il a écrit quand même trois pamphlets de 39 à 41, je crois, mais complètement antisémites et d'une violence folle. De surcroît, il a fini à Simmaringen. De surcroît, il a réclamé aux autorités allemandes du papier pour qu'on republie ses pamphlets. De surcroît, je ne sais pas si tu le sais, mais il a demandé, alors que les lois juives viennent de tomber, qu'on publie le portrait de Robert Desnos. Alors tout le monde sait que Robert Desnos a le nez légèrement crochu, ce qui est quand même pas d'une élégance folle. Et il se trouve que lors de ce procès qui a lieu en 49, il y a un chroniqueur au libertaire, qui s'appelle Maurice Lemaître, qui était un poète lettriste, qui va ouvertement prendre position pour Céline, il faut avouer. Comment tu peux expliquer ça? On ira bien Racinier.
Difficilement, je ne comprends pas très bien. J'ai repris pas mal de citations et j'ai trouvé très peu de gens qui ont dit « ça suffit ». Bon, il y a eu des militants qui ont dit « ça suffit, qu'on s'occupe de ce mec ». Mais il y a eu des gens comme Camus qui, eux, d'emblée... Mm-hmm. On dit Céline, il faut le laisser là où il est. Et Camus a eu des mots très forts là-dessus. C'est une certaine indifférence. C'est une société qui sort d'un trauma profond. Au fond, quand est-ce qu'elle va, cette société va se remettre de ça, moi je ne sais pas. Comment ça s'est passé.
Mais comme tu me disais tout à l'heure, là, c'est pas des gens qui ne pensent pas, ce sont des gens qui sont des intellectuels qui réagissent comme ça. Maurice Lemaître, c'est un intellectuel.
Oui, et la plupart des gens qui viennent avec lui là-dedans sont effectivement des intellectuels très, très curieux. Jean Paulhan, Louis Powels, Albert Béguin, Charles Plinier, et prennent position pour une espèce de tolérance, au fond, est-ce la place de demander à la justice de s'occuper de Céline? À mon avis, pas. Dire, il y avait à être indifférent par rapport à Céline. C'était pas aux anarchistes de décider s'il était bon.
Tu sais qu'après la guerre, Jean Paulhan, qui était directeur de la NRF, va trouver une expression là. Pour sauver les collaborateurs, il va employer le terme de qu'on crée un droit à l'aberration. Tu vois? Je ne sais pas si tu vois à quel niveau. Et André Gide dira, par rapport aux trois pamphlets de Céline sur les beaux draps, j'ai oublié les deux autres, l'école des cadavres, il dira, c'est de l'humour.
Pour Benjamin Perret, quand il écrit à ce propos dans Le Monde libertaire, il dit, toute son œuvre, l'œuvre de Céline donc, toute son œuvre constitue une véritable provocation à la délation et de ce fait devient indéfendable. À quelques points de vue que l'on se passe. Et Camus, lui, ajoute « Mais vous ne m'en voudrez pas d'ajouter que l'antisémitisme, et particulièrement l'antisémitisme des années 40, me répugne. C'est pour ça que je suis d'avis, lorsque Céline aura obtenu ce qu'il veut, qu'on nous laisse tranquille avec son cas. »
Mais Perret, André Breton, Benjamin Perret, Albert Camus sont très clairs dans le départ.
Mais pourquoi pas les autres?
Ils sont minoritaires. Voilà. Ils sont minoritaires. Mais quand tu lis Maurice Lemaître, il argue que c'est une justice bourgeoise. Tu vois, voilà. Et tu sais ce que ça me fait penser? Ça, j'ai découvert dans ton livre, dans ton livre là, lorsqu'il y a le procès de Nuremberg, certains dans la presse libertaire ne comprennent pas qu'on puisse juger les gens à Nuremberg. Ils disent cette chose terrible. Ils disent, si on avait piqué comme Mussolini pour lui régler son compte, ok, c'était très bien, mais en fin de compte, il n'y avait pas de procès à faire à Nuremberg. Non, c'est ça, à peu près, ou pas?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut dire aussi que Nuremberg est très... comment dirais-je? Nuremberg ne se pose pas la question des Juifs. Il y a pas, la question de la Shoah n'est pas abordée à Nuremberg. Nuremberg va choisir non pas le crime contre l'humanité, mais le crime de guerre.
Et c'est pourtant couvert par Hannah Arendt.
Alors, Hannah Arendt va couvrir le procès d'Eichmann.
Ah, d'Eichmann, pardon, excuse-moi.
C'est bien longtemps après, et c'est une situation tout à fait différente. Mais aussi sur le procès d'Eichmann, qui ouvre la voie à un tas de réflexions, et entre autres aux idées d'Hannah Arendt et la question de la banalité du mal. La presse libertaire, donc à ce moment-là, le monde libertaire, ne dira rien.
Ne dira rien.
Ils passeront à côté.
Mais... Et t'as une explication quant à ça? Parce que moi, c'est un de mes grands questionnements. T'as une explication ou pas?
Mais je dirais, encore aujourd'hui, la question juive emmerde tout le monde.
D'accord.
C'est brutal un peu. Mmh. Ça. Parce que, au fond, on ne peut pas la résoudre. On ne peut pas dire, suffit de faire ci, il suffit de faire ça. On se trouve avec quelque chose qui existe, qui est sur notre chemin, de façon perpétuelle, qui ressort régulièrement. Et on voit ça avec les manifs contre les vaccins, tout ça. Et effectivement, on peut se poser la question, pourquoi au moment quand Racinier publie son livre, pourquoi dans la mouvance libertaire, on accepte son livre? Il faut dire que à cette époque-là, au moment où il publie son livre, la pression stalinienne sur tout ce qui est culture est colossale. Et le côté anticommuniste de Racinier est soutenu. Mais Racinier ne dit pas seulement ça, il ne dit pas seulement que c'était les prisonniers communistes qui dirigeaient les camps. Oui. Au profit des SS.
Alors, on va quand même présenter Racinier, parce qu'il oui, faut, on est sur Radio Libertaire, il vient quand même du mouvement libertaire au départ.
Absolument.
Ce drôle de coco. On se fait 3-4 notes de musique, Monif, et on a un drôle de problème. On va traiter de Racinier. Et tu sais pourquoi aussi, tout à l'heure je parlais de l'oubli par rapport à l'histoire, plus personne ne sait qui est Racinier. D'accord? Ok. Merci, Monique. Comme on a des choses à se dire encore, on repassera à la musique. Kurt Weill, c'est magnifique. On est au 01 43 71 89 40 avec Pierre Sommermeyer, anarchiste et juif, anarchiste, antisémitiste, antisioniste, les éditions libertaires, pardon. On a plein de choses à se dire, et en particulier sur un être qui s'appelle Paul Racinier, qui vient, malheureusement, on ne peut pas le nier, du mouvement anarchiste, puisqu'il était à l'AFA, Pierre. On est en 50 environ. Années 50, 51,
oui, c'est ça. Début 51, 52.
Voilà.
Et il est dans, la FA n'existe pas à ce moment-là en tant que tel, mais bon, il est dans les groupes. Est-ce que. C'est l'Union anarchiste. Je ne rappelle plus exactement quel est l'intitulé, mais en tous les cas, il est là et il. Il a été présent avant la guerre, pendant la guerre, il a été en camp de concentration. Et à son retour de guerre, il écrit un livre qui s'appelle, et qu'on peut trouver en ligne, Le retour d'Ulysse.
Le mensonge d'Ulysse.
Où toute une partie de son livre consiste à raconter comment ça se passait de son point de vue dans les camps de reconcentration, donc pas dans les camps d'extermination, hein, dans les camps de concentration. Et comment les communistes qui avaient été incarcérés s'étaient organisés et géraient les camps, évidemment à leur profit et pour le reste de la population. Et qu'au fond, c'était des groupes qui faisaient plus ou moins l'interface entre l'administration SS du camp et les prisonniers. Et la position de Rassigné, c'était de dire ces gens-là servaient la soupe aux SS, ils étaient cul et chemise avec les SS, et que si les SS avaient, eux, géré directement les camps, ça aurait été plus agréable. Ce qui est assez curieux. Il faut juste se remettre ça dans la situation de cette époque-là, où le Parti communiste français et le Parti des fusillés, où lui, à la vérité, il est en plein stalinisme, donc il va y avoir des tas de procès à ce moment-là, de gens qui critiquent les goulags communistes. Rassigné se serait borné à raconter cette histoire et qui a donné lieu à des débats très forts dans la presse, dans le libertaire de l'époque, sur la question de l'importance d'une organisation parallèle dans les camps de concentration. La chose se serait arrêtée là. Mais il rajoute une partie sur la question des chambres à gaz.
Alors, Rassigné appuiera par la suite sa position, affirmant à propos des chambres à gaz. Il est encore trop tôt pour prononcer un jugement définitif sur les chambres à gaz. Les documents sont rares et ceux qui existent, imprécis, incomplets ou tronqués, ne sont pas exempts de suspicion. Il revient plus loin sur cette question. Mon opinion sur les chambres à gaz, il y en a eu, pas tant qu'on le croit, des exterminations par ce moyen, il y en a eu, pas tant qu'on l'a dit. C'est quand même...
Alors, c'est au fond, c'est assez intéressant et c'est difficile de pas faire des heures de temporalité. Effectivement, il n'y a pas eu autant de morts en chambre à gaz que ce qui a été dit. Parce que il y a eu le nombre total de morts n'est pas sujet à caution. Parce qu'il y a eu ce qu'on a appelé plus tard la Shoah par balle. Qui n'était pas une Shoah par gaz ou par moyen d'extermination au camp, mais une Shoah systématique les soldats allemands pratiquaient. Et qui est... Après, c'est très difficile de faire des comptabilités, mais qui porte pour beaucoup une partie de la liquidation des Juifs. Hein. Donc, c'est... On pourrait se limiter à ça, si ce n'est que dans les années 68, 69, il y a des gens qui commencent à faire des calculs voilà. Horribles. S'il y avait eu tant de chambres à gaz avec tant de surface, ce n'était pas possible de tuer autant de gens, ne prenant pas en compte. Mais la question est, c'est que dans les débats qui ont lieu dans le libertaire de l'époque sur Rassigné, la question juive n'est jamais abordée.
Jamais abordée. Et petite parenthèse, même quelqu'un comme Maurice Joyeux, qui est contemporain, ne va pas totalement désavouer Rassigné.
Non, il considérera à la fin de sa vie que Racine a écrit un très bon livre et que c'est que le mensonge d'Ulysse est certainement un des meilleurs livres sur la question. C'est assez étonnant quand c'est la culture de Maurice Joyeux et le nombre de livres qui ont paru à ce moment-là, au moment où il s'exprime là-dessus.
Racine, c'est la porte ouverte au négationnisme.
Absolument, totalement.
Hein, dont alors, petite parenthèse aussi, Forisson, qui va être, je veux dire, le pilier du négationnisme, n'est pas un imbécile non plus. Hein. Il a travaillé sur Lautréamont, il a travaillé sur Rimbaud. C'est quelqu'un qui, intellectuellement, devrait avoir des bases solides.
Hein. Oui, alors ça, c'est... Et pourquoi les petits groupes radicaux de ce moment-là...
On va finir là-dessus, Pierre. C'est ce qui était autour du revirement de la vieille taupe.
Oui.
C'est ce que tu veux dire, non?
Oui.
Alors,
tout
tu
à
peux
fait.
Y aller là, parce que là, c'est ça,
oui,
disparu c'est, dans l'histoire. Essaye un petit peu là.
La vieille taupe a deux périodes. La vieille taupe était l'endroit où moi, j'ai souvent, quand j'ai des jeunes ouvriers à Paris, chercher des textes qui venaient, qu'on ne trouvait pas ailleurs, des textes des conseillistes.
C'était quelle rue? Tu te souviens ou pas? Parce que moi, j'ai recherché la rue, j'ai pas trouvé.
Je crois que c'était rue Saint-Jacques.
Rue Saint-Jacques, c'est ça. Oui, alors...
Et donc, c'était, grosso modo, on peut dire, l'endroit où on trouvait tous les textes marxiens disponibles. Et puis, il y a 68 qui arrive, hein, et au fond, 68 a ouvert le champ du possible. Et... Le champ des possibles s'est refermé et ça a été très difficile pour des tas de gens de vivre ce refermement. Il y a eu nombre de petits groupes qui avaient éclos au moment de 68, qui sont morts après coup. Et parmi ces groupes, il y avait donc des groupes qui étaient proches de Guillaume, qui était de la vieille taupe, qui ont comme des gens de la banquise, par exemple, qui ont trouvé là l'occasion d'exprimer leur radicalisme. Et ça coïncidait aussi avec le moment où des luttes en Palestine, entre Palestiniens et Israéliens, devenaient très fortes. Et quel meilleur moyen d'être plus radicaux que les autres que de contester la Shoah.
C'était aussi sous couvert d'anticommunisme.
Absolument.
Sous couvert de société bourgeoise aussi.
Complètement.
Bien sûr.
La société française, mais comme toutes les sociétés, ne s'est pas relevée de cette histoire de la Shoah, bascule à ce moment-là dans une espèce de culte d'Auschwitz et de compagnie. C'est à partir de ces moments-là où on commence à organiser des espèces de pèlerinages et tout ça. Donc, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour une réaction simpliste. Et c'est ça qu'ils vont avoir. Donc, ils vont chercher le moment, la chose où on peut commencer à... Comment ça s'appelle ? À titiller ça, et ils vont trouver... en Forisson, quelqu'un qui leur offre la possibilité de développer ces idées profondément réactionnaires, mais disruptives, incendiaires. Ne pouvons pas laisser les gens insensibles à ce qui se passe. Et c'est au fond, c'est très curieux, puisque sous le prétexte de liberté, d'éducation, d'information, ils vont même enrégimenter quelqu'un comme Chomsky, qui est le juif américain, intellectuel important, qui ne sait pas où il met les pieds, dans quelle chose il met les pieds, qui n'est pas très au clair de ce qui se passe et comment ça se passe, et des débats. Et ça va, au fond, créer quelque chose qui n'est pas refermé aujourd'hui. Il semblerait bien que certaines personnes, des groupes plus ou moins proches de la mouvance libertaire au sens large du terme, continuent à chercher par quels moyens on peut faire quelque chose de révolutionnaire avec l'antisémitisme.
C'est l'histoire de mon fameux tract qu'on m'a remis à Nuit Debout, là, qui commençait par des lignes absolument admissibles, qui passait par l'antisionisme, qui arrivait à l'antisémitisme et qui finissait par Alain Soral. C'est-à-dire, c'est, oui, c'est, voilà.
C'est... Et là, on sert la soupe au, comment dire, au courant réactionnaire conservateur israélien, qui considère que toute attaque contre l'État israélien est une attaque antisémite. Mmh. Et à ce moment-là, il est difficile de frayer un chemin entre les gens qui pensent que, enfin, que moi personnellement, je suis anti-palestinien, donc je suis pro-israélien, et les autres qui pensent que, comme je suis contre l'État d'Israël et je défends les gens qui, à l'intérieur de l'État d'Israël, se révoltent et refusent, je suis pro-palestinien. Et cette ligne de crête est extrêmement difficile à tenir, mais il y a aujourd'hui en Israël plein de jeunes qui refusent de servir dans l'armée, qui sont des objecteurs de conscience. Il y a eu toute une tendance d'anarchistes contre le mur, qui n'étaient pas anarchistes, mais qui ont été considérés par les pouvoirs israéliens comme des anarchistes. De l'autre côté palestinien, il y a plein de gens qui luttent contre le pouvoir palestinien ou le pouvoir gazaoui. Je veux dire, il y a de chaque côté des gens qui sont en lutte pour construire un État de plus en plus fort et dans lequel eux sont les patrons. Et de chaque côté, il y a des gens qui refusent de marcher dans la combine.
Et cette histoire dure depuis plus d'un siècle.
Oui, absolument.
C'est ça, parce que quand on commence ton livre, on s'aperçoit que le problème est déjà là. Hein.
Mais complètement.
Alors ce livre, c'était un plaisir, Pierre. Hein. Pierre Sommermeyer, anarchiste et juif, anarchisme, antisémitisme, antisionisme, les éditions libertaires. On va s'arrêter là, tout simplement. Sinon, on bâclerait, et c'est ça l'histoire de ce que je t'ai dit, il faudrait 300 pages et il faudrait 2 heures d'antenne. On va remercier Monique. On va donner rendez-vous lundi prochain, Monique, avec Marianne Majidi. Bye bye, à bientôt sur Ondes de Choc au 01 43 71 89 40. Et puis ne loupez pas l'émission qui vient, c'est Trou Noir, ça va être très intéressant.
Tu vois,
Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Mais il n'est pas encore tout à fait l'heure de Trou Noir, mais on va faire quelques annonces. Nicolas ?
Bonjour à toutes et à tous. Quelques infos, notamment sur une animation qui va se tenir à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Ce sera dimanche prochain, le dimanche 18 février à 16h30, et c'est le groupe Libertaire d'Ivry, le groupe de la Fédération anarchiste, qui vous propose le FAR, F-H-A-R, pour Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Il s'agit d'un film... un film de Karl Rossopoulos qui retrace la manifestation du phare à l'intérieur de la manifestation syndicale du 1er mai 1971 et dénonce les discriminations homophobes, scandant les slogans tels que « Les PD dans la rue »,« Nous sommes tous un fléau social, abat les phallocrates ». La caméra suit les manifestants, cadre les badauds qui découvrent avec curiosité et étonnement le premier cortège de gays et lesbiennes défilant ouvertement. La projection de ce film de 26 minutes donc, sera suivie d'une discussion, 50 ans plus tard, un peu plus maintenant, entre avancées légales et homophobie ordinaire, que reste-t-il du militantisme homosexuel ? Ce sera donc à la librairie Publico ce dimanche 18 février à 16h30, à l'invitation du groupe libertaire d'Ivry, le film Phare F-H-A-R. Merci et à très vite dans Trou Noir.
Eh bien, en attendant qu'il soit l'heure de Trou Noir dans... 11 minutes, me semble-t-il, un petit peu de musique.
C'était un soir de juin, l'alcool avait tourné, Jésus s'en revenait, ivre du cabaret, jurant et blasphémant, maudissant le carême, on l'entendait gueuler jusqu'à Jérusalem, il pensait à sa panse bien plus qu'au Saint-Esprit, et il cherchait un lit pour apaiser ses sens, il titubait ainsi, plus sous qu'à Tibériade, quand tout à coup il vit ses quatre camarades, mesdames et messieurs, pour vous ce soir, je vais vous présenter les quatre camarades de Jésus. Le premier, Simon-Pierre. Le premier, Simon-Pierre, était un vrai ivrogne qui passait tout son temps l'innommable charogne à tuer sa vinasse sur un banc du quorum, ne bougeant sa carcasse que pour mander l'aumône. Le second, un certain André. Le second incertain, André pour les intimes, eunuque de métier, passé pour le plus digne, il racolait les hommes pour trois écus romains, du côté de Sodome, dans le quartier des bains, Jacques et Jean les deux frères, pala pala pala, pala pala pala, Jacques et Jean les deux frères, deux aimables macros, avaient mis au tripot leurs trois sœurs et leur mère, les soirs de grands banquets, ils dénichaient des dames, et allaient forniquer au temple d'Abraham. Ils étaient tous les quatre assis autour d'un banc. Et ils gesticulaient comme de vieux forbans. Nos hommes étaient si saouls qu'ils se croyaient en mer. Tout autour de la terre semblait faire des remous. En avant, moussaillon, s'écriait le vieux Jacques, affrontant le plein fouet, l'écume et la bourrasque. Ah, moi le gouvernail, s'écriait son frère Jean, évitons la rocaille, et filons droit devant. Il naviguait ainsi sur la terre bien ferme. Quand tout à coup ils virent l'éclair d'une lanterne et Jean. Là-bas, il y a un mec qui marche sur l'eau. C'est beau. Oh les amis, un fantôme, s'écria le vieux Pierre, par le Deutéronome. Il marche sur la mer, mais non, bande de cons, ce n'est que moi, Jésus. Vous êtes encore tous ronds, un bande de malotrus. Si c'est toi, cria Pierre, ordonne que je vienne. Eh bien. C'est que c'est profond, Jésus. Je vais me noyer, moi.
Je marche sur l'eau. Ma chelou, miracle,
miracle, bon miracle. Je marche sur la mer et défile les ressacs, s'écria le bon Pierre. Mais d'un coup Simon Pierre eut envie de vomir, et ses jambes se mirent alors à flageoler. Oh, si c'est toi Jésus, je t'en prie sauve-moi. Et Jésus de répondre, homme de peu de foi. C'est pas fini. De 1000 ans de croisades, de sainte inquisition, de sang de dragonnade et de persécution, de chasse aux sémites, de chasse aux albigeois, d'autodafé de rites barbares pour la foi. 2000 ans de croisades, de colonisation, de crimes en dragonnade et de persécution, de massacre des juifs, de massacre des morts, de silence nazi, de massacres encore. 2000 ans de mensonges, de morale hypocrite, de châtiments sans nom, tout ça pour une cuite. 2000 ans de mensonges, de morale hypocrite, de châtiments sans nom, tout ça pour une cuite.
Si Géo dans sa robe de bure sonnera le glas jusqu'en 100 000, un grand arrêt sur le futur triste colosse aux pieds d'argile. Au Fukushima, mon amour, vivre d'atomes et d'eau pas fraîche, ça fait des vagues sur les beaux jours, des tsunamis dans les dépêches. La loi bataille avec les mots pour habiller les illusions. Derrière les mensonges, le labo se cache la mort au plus profond. Démocrature qui sort ses griffes, la chance à meute au petit matin. Qui sur les fronts alternatifs colle un pétard républicain. Atomiser tous les combats, terroriser l'opposition. Le pouvoir fait son cinéma, la vie des autres comme ambition. Barbouze dressée pour la peur et Robocop en hélico. En garde à vue, petite sœur, pour juste vouloir un monde plus beau. Blanc des centrales, le cri des grands oiseaux de nuit, cloués aux portes du capital, cœur en fusion d'aimer la vie. Si Géo dans sa robe de pure, qu'en sera-t-il en l'an 100 000? Combien d'années pour ce futur pauvre colosse aux pieds d'argile? Nous irons au bois. Un, deux, trois, tu viens avec moi.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir. Exceptionnellement, cette émission sera constituée de deux parties. La première nous emmènera à la découverte d'une estive en Ariège. La seconde est un hommage à Claude Villers, décédé le 16 décembre 2023 et enregistré par l'équipe de Trou Noir à l'occasion des Reclusiennes en 2013 et 2015.
Bonjour, je pense que vous avez reconnu nos invités principales. Enfin, il y en a aussi quelqu'un d'autre, on va lui donner la parole tout de suite. Ce sont des chèvres, bien entendu, avec leurs clochettes. Et je pense que tous les auditeurs ont vu qu'elles avaient l'accent des Pyrénées ariégeoises. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'ailleurs de leur redonner la parole au cours de cette émission. Donc, en fait, il s'agit d'un film de Jean Samouillon qui est au téléphone. Je vais lui donner la parole tout de suite après. Un film qui s'appelle La réponse des bergers, voilà, et qui se passe effectivement dans la Pyrénées ariégeoises, un film magnifique qu'on a beaucoup aimé. Donc Nicolas et Serge au micro, on est là pour dialoguer avec Jean Samouillon. Jean Samouillon, et vous nous entendez?
Oui, tout à fait, je suis là.
La voix qui vient d'Ariège, hein, on la reconnaît tout de suite. Bon, alors comme on n'a pas tellement de temps, je vais demander de vous présenter rapidement et aussi comment le film s'est mis en place, parce que ça a une certaine importance, et le temps que vous avez passé avec les bergers et d'autres, d'ailleurs, on va en parler un petit peu dans cette émission, dans ces 40 minutes. Donc voilà, donc petite présentation rapide au départ.
Alors au départ, si vous voulez, ce sont des gens qui avaient participé à un film antérieur, un documentaire sur la reprise des châtaigniers après l'exode rural en Ariège, par la reprise des châtaigniers par les néo-ruraux. Et donc, ces gens-là, bon, qui sont devenus des copains, hein, ce sont des bergers, m'ont demandé de faire un documentaire sur leur ferme, à savoir, c'est une ferme ressource, c'est-à-dire qu'ils accueillent des jeunes pendant un mois, deux mois, trois mois, plus, parfois davantage, et ils leur apprennent le métier de berger pour faire du fromage, etc., etc. Voilà. Et donc, j'avais commencé ce film chez Polo donc, et Martine, il s'appelle Garcia, il s'appelle comme ça. Et donc, ils m'ont dit, actuellement, il y a des jeunes qui sont passés chez nous, en ferme ressources, et qui font une estive. Bon. Et ce serait bien d'aller faire quelques plans, puisqu'ils étaient, c'était l'été, ils étaient en montagne. Alors, nous y sommes allés, et ce que j'ai découvert là, bon, m'a assez éberlué. Je me suis dit, le film, il est là, quoi, tout simplement. Et ce sont des jeunes, bon, 4-5 jeunes, bon, qui montent en estive avec 140 chèvres, voilà. Alors, une 120 chèvres de Polo et Martine, puis leurs 40 chèvres à eux, enfin, 140-160, quelque chose comme ça. Et donc, ils font du fromage en montagne, et ce sont les randonneurs qui souvent viennent leur acheter un bout de fromage, où ils descendent au marché de Saint-Girons, hein. Nous sommes à quelques pas de l'Espagne, là, et pour vendre leur fromage sur ce marché. Voilà. Et donc, tout s'est passé bien lorsqu'ils ont eu un gros problème avec l'administration, parce que leur fromagerie, bon, c'est un bâtiment en bois, hein, qu'ils ont construit sur les traces d'une ancienne fromagerie, bon, qui